L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Pour cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, nous analyserons les causes et les conséquences de la faillite des banques américaines. Et à la lumière de ce grave événement, nous nous posons la question de la nécessité de la dédollarisation des échanges commerciaux, notamment pour les pays africains. Tous les développements sur ces problèmes fondamentaux dans quelques instants avec mon invité Abdelrahman Hajj Nasser, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien conseiller économique de feu le président Chedli Benjdid. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Mesdames et messieurs, bonjour. Les déboires de la banque américaine Silicon Valley Bank, SVB, la 19e banque des États-Unis, puis Signature Bank, la 21e banque, mais aussi Silvergate Bank, inquiètent sérieusement les marchés financiers mondiaux suite au repli des principaux indices de Wall Street. En effet, si l'on rajoute l'état d'autres banques systémiques comme le Crédit Suisse, le recul des indices d'autres banques comme la JP Morgan qui a chuté de 5% durant la séance de vendredi 10 mars et le décrochage des bourses européennes ce lundi 13 mars, laisse penser qu'on pourrait assister à une crise financière internationale comme celle des subprimes en 2007-2008 qui avait provoqué une récession mondiale. Alors, la Silicon Valley Bank est spécialisée dans le financement des startups et licornes, un secteur fragilisé depuis quelques mois. Silvergate et Signature Bank, deux autres banques de la finance tech également, ayant récemment communiqué sur ses difficultés liées à son exposition, donc à leurs expositions sur les crypto-monnaies dont la bulle a déjà éclaté en 2022. Alors, à l'image de la crise des subprimes en 2007-2008, est-ce actuellement le début d'une perte de confiance généralisée, d'une cascade systémique de faillites bancaires dans le domaine de la high-tech? Alors, pour discuter de ce sujet fondamental et crucial aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir encore une fois Monsieur Abdelrahman Hajj Nasser, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ex-conseiller économique de feu le président Chedli Benjdid. Monsieur Hajj Nasser, bonjour.
Bonjour, monsieur Louat.
Bien.
Alors, merci pour votre invitation.
Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. Alors, après cette faillite, j'ai deux citations de deux présidents des États-Unis. Alors, la première, c'est celle de l'ex-président Donald Trump qui a réagi justement à cette faillite de la Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate Bank. Et il dit, compte tenu de ce qui arrive à notre économie, dans le contexte de la proposition d'augmentation d'impôts la plus importante et la plus stupide de l'histoire des États-Unis, Joe Biden devient le Herbert Hoover des temps modernes. Je rappelle que Herbert Hoover était le président des États-Unis lors de la dépression de 29. Alors, et il dit, nous aurons une grande dépression, beaucoup plus grande et plus puissante que celle qui a commencé en 1929. La preuve, on est que les banques commencent déjà à s'effondrer. Alors, à contrario, il y a la déclaration de Joe Biden qui dit que les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est solide après les turbulences donc suscitées par l'écroulement de la banque californienne SVB. Voilà. Alors, ma première question, monsieur Hajj Nasser, êtes-vous d'accord avec monsieur Trump ou avec monsieur Joe Biden? Et le monde va-t-il connaître une nouvelle crise capable d'ébranler l'ensemble du système financier et monétaire international?
Vous savez, il y a les crises subies et les crises voulues. Et par exemple, la crise subprime aurait pu être résolue par le régulateur central en limitant, en fixant un plafond au taux d'intérêt. S'il avait fixé un plafond au taux d'intérêt payé par le bas de la classe moyenne américaine qui s'était fortement endettée pour pouvoir acheter des logements, on aurait sauvé le bas de la classe moyenne américaine et puis sauvé les banques, les fameuses banques qu'on a mis en faillite. Or, on a préféré mettre quelques banques en faillite et mettre surtout, presque un tiers de la population américaine en situation de précarité, plutôt que les sauver. Donc, il y a une question, pourquoi a-t-on fait ça ? Parce que l'objectif de l'ultra-financiarisation, c'est la concentration, non pas des revenus, mais de moyens financiers colossaux aux mains de quelques opérateurs qui ne sont pas forcément des individus, plutôt que de l'enrichissement de la majorité. Et je dirais même plus, il est très important, à l'époque, il était très important d'appauvrir, de précariser la classe ouvrière, la classe travailleuse, pour créer une pression sur la classe moyenne qui, elle, n'était pas précarisée pour qu'elle travaille davantage. Et puis surtout, il était très important dans le cadre de la mondialisation de concentrer des revenus afin de pouvoir intervenir avec des nouvelles armes de la financiarisation dans la conquête du monde. Donc ça, c'est la crise de subprime. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on écrit ni ce qu'on nous dit.
Oui, oui.
Donc, les crises sont un moment de changement de pouvoir. Après le président Hoover, et je dirais après Roosevelt, à l'époque, il y a eu aussi un changement de pouvoir. Roosevelt avait dit, tout simplement, il avait demandé au patron de la mafia financière de l'époque, il avait nommé directeur du Trésor en lui disant « tu dois me trouver une solution ». C'était un financier, c'était le père des Kennedy. Les Kennedy sont des gens qui ont une très belle image. Mais le père, c'était le patron de la mafia financière, tout simplement. Donc, il a mis au pas la bourse. Et toutes les bonnes décisions à l'époque, notamment la séparation de la banque d'investissement de la banque de dépôt, notamment la division des grandes boîtes qui sont venues après, comme ITT, International Telegraph Telecom ou American Telegraph Telecom,
etc. C'est ce qu'on appelle...
C'est-à-dire la lutte contre les monopoles. Oui. Donc, ça a été donc une période de changement de pouvoir, c'est-à-dire où on redistribue le pouvoir, où on le rend un peu plus transparent, en rendant un peu plus transparente, et c'est-à-dire traçable, l'enrichissement des grands. Aujourd'hui, à l'époque des subprimes, c'était exactement le contraire, puisque c'est venu après une période où, par exemple, Clinton, qui avait été forcé à faire la guerre de Yougoslavie qu'il ne voulait pas, en utilisant le cas de Monica Lewinsky, et qui avait été forcé de refaire une réforme financière qu'il ne voulait pas, parce que le père Clinton n'est pas un imbécile, elle a dit. Par exemple, on l'a forcé à supprimer la loi qui interdisait le cumul des fonctions des banques d'investissement et des banques.
Vous parlez de la loi Glass-Steagall Act.
Glass-Steagall Act. Absolument.
Pour rappel,
le Glass-Steagall Act est une loi passée par le Congrès américain en 1933 durant la présidence de Franklin Roosevelt dans le contexte de la Grande Dépression. Il interdisait aux banques commerciales, lesquelles acceptent les dépôts des épargnants et accordent des prêts, de pratiquer des investissements. Cette loi instaurait également le système fédéral d'assurance des dépôts bancaires et le plafonnement des taux d'intérêt. Le Glass-Steagall Act visait donc à protéger les banques commerciales et leurs déposants des risques pris par les banques d'investissement. Sous la pression de l'affaire Lewinsky, la loi Glass-Steagall est abrogée en 1999 par le président Bill Clinton via le Financial Services Modernization Act, principalement pour permettre la naissance d'un géant de la banque, Citigroup. De nombreux experts s'accordent à dire que l'abrogation du Glass-Steagall Act a contribué à la crise financière de 2008.
Et donc, à l'époque, la vision était claire. Donc, c'était, d'une certaine façon, repermettre les manipulations de masse Et dans ce cadre-là, ce qu'on a appelé la crise du subprime n'était qu'une crise qui permettait la concentration des revenus aux mains de quelques acteurs américains. En plus, tout cela dans le cadre de lutte interne. Donc, on a sacrifié une des banques d'affaires américaines au profit d'autres. Bon, faut bien.
Mais quand vous dites ça, monsieur Hadj Nasser, est-ce qu'on peut penser que c'est une crise qui a été provoquée? Pas.
Celle de 2008 est une crise provoquée.
D'accord.
La guerre qui est importante aujourd'hui, c'est la guerre de l'énergie, c'est-à-dire le contrôle de l'énergie.
Absolument.
La guerre de la finance. Est-ce que l'ultra-financiarisation du monde permet de garder le contrôle du monde? La guerre de l'information. Donc nous avons une série de guerres parallèles, mais rien ne se passe comme prévu. Si dans la guerre de l'information, dans un premier temps, l'Occident a gagné, parce que il réussit toujours à essayer de passer pour la force du bien, donc le reste c'est la force du mal. Si dans un premier temps, la capacité financière est apparue comme étant incontournable, de sorte que nous avons vu les bourses ne pas arrêter de progresser comme s'il n'y avait pas de problème. Donc, cela dans un premier temps. Si dans un premier temps, on a pu penser que la guerre de l'énergie allait être perdue du côté russe, on s'est rendu compte tout d'un coup que dans la guerre de l'énergie, de toute façon, les Russes étaient gagnants. Que, en apparence, les États-Unis s'étaient très très fort enrichis et avaient remis la main sur les fournitures de gaz pour l'Europe et par là même affaibli terriblement l'Europe. C'était donc une victoire assez essentielle, non pas sur le contrôle du commerce mondial de l'énergie, mais sur l'assujettissement de l'Europe aux fournisseurs américains. Mais et donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'asservissement du monde, il n'y avait que l'asservissement de l'Europe. La question qui se posait, c'est que tout d'un coup, la capacité d'influence des États-Unis n'était plus mondiale. Et donc cela remettait en cause le privilège même des États-Unis, ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar, qui n'était lié qu'à sa capacité de nuisance militaire. Les États-Unis perdent toutes les guerres, mais néanmoins, ils détruisent tous les pays aussi, même s'ils finissent par perdre. Et cette capacité de nuisance permettait d'imposer un dollar sans contrepartie réelle. Donc, nous avons eu aussi une autre, quelque chose qui était, je veux dire, assez difficile à comprendre dans la logique économique, qui était donc l'accroissement sans fin de la capitalisation boursière du monde, sachant que par ailleurs, quand on est un économiste, qu'il n'y a pas de base.
Absolument, ça avec une déconnexion complète.
Il n'y a pas de base matérielle à cette valorisation. Alors, il y a des explications. Parce que les États-Unis, quand ils se sont préparés à cette phase mondiale depuis très longtemps, qui est la phase de la mondialisation qui normalement remonte totalement aux États-Unis comme étant le centre du pouvoir, avec comme adjoint la Chine qui devait être le remplaçant de l'Occident dans le cadre de son aptitude à être l'atelier industriel, mais aussi d'être un sous-capitaliste de qualité, parce que dans le fond, l'objectif, c'était quand même d'arriver à une espèce d'organisation politique plus proche de la Chine que de la démocratie occidentale, telle que l'ont pensé les Anglais il y a quelques siècles.
Selon les experts qui se sont exprimés déjà sur la question de cette faillite-là, le facteur déclencheur de la faillite de cette banque réside dans la hausse successive des taux directeurs opérés par la réserve fédérale américaine ces dernières semaines pour lutter contre l'inflation. Et à contrario, d'autres, comme vous venez de le souligner vous-même, experts estiment que les causes sont beaucoup plus profondes et structurelles. Et selon eux, ce sont les mêmes causes qui ont mené à la crise de 2007-2008. Et pensez-vous alors dans ce cas que le rapprochement que fait Donald Trump avec la dépression de 1929, qui a mené à la Seconde Guerre mondiale, est justifié?
Donald Trump fait de la politique et moi ça m'intéresse pas. Je veux dire, il est dans des images frappantes pour le public américain et pour le. Moi je ne suis pas un électeur américain et Donald Trump en soi ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les effets économiques profonds qui ont une signification. Bien que Donald Trump a dit des choses intéressantes, quand il a dit « nous nous désindustrialisons, nous ne pouvons pas diriger le monde avec des pièces détachées qui viennent de Chine ». Il a remis en cause cette idée que la Chine pouvait être une filiale des États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, pour pouvoir vivre, ils ont vécu pendant longtemps par le pillage du monde entier. Le pillage du monde entier, comment ? Ben, en imposant le dollar, le monde entier prête de l'argent aux États-Unis. Les États-Unis émettent du papier pour pouvoir vivre que nous nous achetons et pour lequel nous payons des taux d'intérêt. Mmh. Ça, c'est le génie de la financiarisation mondiale. Mais à partir du moment où tout cela ne tient pas, parce que vous avez tellement émis de monnaie, je vais vous donner un chiffre que vous ne trouverez nulle part, mais qui est une réalité. La dette américaine est de 200 000 milliards de dollars. Or, il n'affiche que 30 000 milliards de dollars.
Donc, 30 000 milliards de dollars, c'est la dette fédérale, mais ce n'est pas la dette globale.
C'est parce que les États-Unis, il faut donner même la dette du tout petit américain.
Absolument, oui.
Parce que il y a qu'un seul dollar, il n'y a pas plusieurs dollars. Bon, n'importe. Donc c'est une dette qui ne peut pas être remboursée. C'est une dette qui nécessite que les États-Unis soient le gendarme définitif du monde. C'est ça l'objectif de la mondialisation. C'est qu'on ait tous peur du gendarme et qu'on continue à financer son niveau de vie. Donc comment accélérer d'une certaine façon un retour en arrière, c'est-à-dire comment, par la financiarisation, accélérer la réindustrialisation, par le pillage. Donc comment faire le pillage ? Eh bien, on s'attaque aux seuls pays qui sont des pays dangereux pour les États-Unis dans le monde occidental, c'est-à-dire l'Allemagne et le Japon. L'Allemagne, en la coupant de son allié naturel qui est la Russie, et le Japon, en le coupant de son interland, si l'on veut, c'est-à-dire, d'une certaine façon, le continent asiatique. Mmh. Ça a été très loin. On a vu la disparition de M. Abe, l'ancien Premier ministre nationaliste japonais. Enfin, ça a été très violent. On a interdit, et encore récemment, je pense qu'il y a quelques jours, on a détruit le premier prototype d'un avion Mitsubishi. C'est-à-dire que le Japon ne doit pas être autonome sur le plan militaire. Il se réarme, mais comme armée de base, pas comme armée sophistiquée. On sait très bien que le Japon est un pays du seuil, qui pourrait absolument tout produire.
Absolument.
Très grande technologie. Et le Japon est un pays puissant parce que il a une dette énorme, mais c'est une dette interne, ce n'est pas une dette externe. C'est-à-dire, vous savez, quand vous vous endettez en interne, en fait, vous avez remboursé au moment même où vous avez emprunté. Donc, il n'a pas de problème de déséquilibre, le Japon. Bon, bref. Donc, les États-Unis, en créant la guerre à l'Allemagne, pour éviter que l'Allemagne et la Russie ne deviennent une puissance continentale qui contrebalancerait la puissance chinoise d'une part et la puissance anglo-saxonne d'autre part, visait aussi à piller l'Allemagne, parce qu'il faut bien qu'il pille. Or, quelles sont les richesses encore disponibles à la mesure de l'appétit américain ? Ben, l'Allemagne et le Japon. Il n'y a plus beaucoup de grandes richesses disponibles. L'Afrique, etc., tout ça, c'est des matières premières. L'Allemagne, c'est des milliers de milliards de dollars. Ce n'est pas la même chose. Et puis, c'est une technologie que les Américains n'ont pas. Donc, on a bien vu à travers la crise du gaz qu'on leur a dit, si vous venez aux États-Unis, vous aurez droit au gaz au même titre que les Américains, c'est-à-dire pas cher. Et si vous restez en Allemagne, vous ne pourrez plus exporter. Et on a vu les Allemands faire des discours. Il faut se délocaliser aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, hein. Mais peu importe. Vous voyez, ça c'était un des objectifs de la guerre. Et notamment, l'ultra-financiarisation, donc les BlackRock, les Vanguard, ils sont, je vous rappelle que le total de ces grands instruments, ça n'a plus rien à voir avec la période des Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est 150 milliards, c'est arrivé à 180 milliards de dollars.
Là, il s'agit de milliers,
c'est des milliards de dollars. Ouais, ouais. Donc, c'est une armée qui n'a personne en face. Ça, c'est une erreur monumentale. Parce que, en face, il y a des projets. Les projets en face, les projets notamment de ce qu'on appelle les BRICS, c'est un projet, bien sûr, de multipolarisation, c'est-à-dire de mettre les bases d'un nouvel équilibre du monde.
Équilibre du monde, si... Avant de passer à ça, parce que j'ai prévu une question sur ça, j'aimerais bien qu'on termine sur la question des États-Unis et des banques, parce que pour la troisième question, il y a la Réserve fédérale, donc se dit prête à faire face à toute pression de liquidité qui pourrait survenir. Et elle annonce un financement supplémentaire qui sera mis à disposition par le biais de la création d'un nouveau programme de financement à terme bancaire qu'elle surnomme BTFP.
L'Occident est perdu.
Donc,
la Réserve fédérale.
Et donc,
la Réserve fédérale,
justement, je voulais vous poser la question, est-ce que cet instrument-là qu'elle propose, est-ce que ce n'est pas une autre forme de juste un peu masqué d'un énième quantitative easing?
Ils ne peuvent pas, d'un côté, par nécessité anti-inflationniste, augmenter les taux d'intérêt pour rétablir la confiance dans les bons du trésor. Aujourd'hui, un des problèmes, on va dire, des banques primaires ou des banques commerciales américaines, c'est que les citoyens américains retirent leur argent des banques pour le placer en bons du trésor. Parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Et puis parce que on n'imagine pas la faillite d'un État. Normalement, un État n'est jamais faillible. Hein. Bon. Et donc, effectivement, les banques sont en liquidité. Or, cela n'a pu se faire que parce que la Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt. Alors, elle augmente les taux d'intérêt, elle attire la masse de l'épargne, et en même temps, elle va faire du quantitative easing pour sauver les banques. Bon, je veux bien, je veux dire, c'est des opérations un peu stupides, de court terme, etc. Mais il y a toujours un objectif derrière les crises. Or, l'objectif actuel, c'est de sauver la centralité de la mondialisation et d'essayer d'interdire la multipolarité. Mmh. Ou en tous les cas, d'arriver à la future table de négociation en position de force. Mais il y a trop aujourd'hui d'éléments contradictoires dans la politique américaine pour que les États-Unis puissent s'asseoir dans un nouveau Yalta qui est infiniment plus complexe que le Yalta de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il s'agira de parler pas uniquement d'armement, mais des nouvelles formes, on va dire, d'armement, dans l'armement financier. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, il y avait que les États-Unis qui avaient de l'armement.
Les moyens de la guerre hybride, comme on l'appelle, les guerres de...
Les moyens des guerres aujourd'hui, des guerres à mille feuilles, des guerres hybrides. Donc, il y a trop d'éléments contradictoires dans la politique américaine parce que justement, rien ne s'est passé comme prévu depuis. Nous sommes dans une période où les concurrents dans la gestion du monde des États-Unis sont apparus beaucoup plus puissants que ne le sont les États-Unis. Donc, effectivement, pour eux, l'accélération de la chute de l'Europe pour qu'elle ne s'associe pas à la Russie est devenue une urgence, alors que c'est une erreur. Dans le fond, il eût mieux valu négocier avec la Russie une bonne coopération avec l'Europe pour contrer la Chine que de renforcer la Chine par une bonne coopération entre les Russes et les Chinois. Mais ça, c'est de mon point de vue, c'est une erreur stratégique militaire, c'est une erreur stratégique économico-financière, c'est énorme. D'autant que, qu'est-ce qui précipite ces éléments contradictoires chez les Américains? C'est que les prémices de la réflexion économico-financière chez les BRICS sont quand même de mettre en place des monnaies, on n'est pas d'accord là-dessus, bien évidemment. Et il y a ceux qui, comme les Russes, préfèrent des monnaies basées sur, on va dire, sur la production de matières premières et la production industrielle pure. Il y a ceux qui, comme les Chinois, sont dans une vision un peu plus hybride, où il y a la production matérielle, mais aussi à la capacité financière, évidemment. Nous n'avons pas affaire au même centre d'intérêt. Néanmoins, il y a un débat entre des économies dites BRICS qui veulent construire le monde sur la base de formes de production réelles et un ancien monde américain qui veut maintenir une capacité d'intervention sur une base de violence militaire et non pas de capacité industrielle ou de capacité financière.
Mais dans cette configuration, Monsieur Hajjansar, comme une dernière question pour cette première partie de notre entretien, est-ce que si cette crise arrive en Europe, et nous la voyons déjà, il y a les bourses européennes ont complètement chuté toutes, et il y a les plus grandes banques aussi comme BNP Paribas, comme d'autres dont les indices se sont écroulés, est-ce que ça serait le coup de grâce à l'Union européenne si la chose se complique?
Écoutez, moi honnêtement, soit l'Europe, disons que soit l'Allemagne se rebelle et décide de rester une puissance, c'est-à-dire d'accepter son rôle de quatrième Reich, hein, de ce qui était son projet. Hein. Reich n'est pas nécessairement négatif, hein, ce n'est pas Hitler Reich. Hein, d'accord. Si l'Allemagne, consciente de ses intérêts grâce à la pression des industriels allemands et qui renoue petit à petit avec la Russie, au-delà de l'affaire de Nord Stream, etc., ben l'Europe ne disparaîtra pas. Et c'est intéressant pour eux et pour les Russes par rapport à la puissance de la Chine. La Chine, c'est quand même beaucoup plus puissant que les Américains potentiellement. On oublie. Quand la Chine sera très très faible, il y aura 600 millions d'habitants. Tous très très bien éduqués, très disciplinés, très productif. Donc pour faire face et pour éviter qu'on tombe dans un nouveau monde unipolaire, il faut qu'il y ait des puissances à côté. Si les États-Unis ne sont pas capables de se sauver parce qu'ils ont tellement cru à leur hyperpuissance qu'ils ont perdu, c'est ce qui est arrivé aux Anglais. Le thatchérisme, c'était quoi? On n'a pas besoin de construire des voitures, on n'a pas besoin de produire ceci, on n'a pas besoin de produire cela, parce que nous contrôlons la City. Et d'ailleurs, même les États-Unis ne sont jamais arrivés à contrôler la City. C'était le centre du monde, le centre du monde financier. Donc si on contrôle la bourse, on contrôle le reste du monde. Eh oui, mais il y a un moment où le citoyen lambda, il a besoin d'une voiture et d'électricité et non pas de moyens financiers parce que les moyens financiers n'ont de valeur que tant que vous leur faites confiance.
C'est sûr, c'est du papier.
Ce qu'émet une banque centrale, ce n'est pas du papier, c'est de la seule monnaie qu'elle émet, c'est de la confiance. Mmh. Or, l'erreur américaine, l'erreur anglaise, ça a été justement de remettre en cause leur propre droit. Quand vous remettez en cause le droit sur lequel vous reposez, vous, par exemple le droit de propriété, la preuve, en France, il y a eu un problème pétrolier avec la Guinée-Bissau, on s'est attaqué malgré le droit au fils du président de la Guinée-Bissau. On lui a retiré ses moyens. Or, si la France voulait vraiment se battre contre la corruption, d'abord, c'est un pays de recel. C'est un pays qui recèle, oui ou non?
Absolument.
C'est-à-dire qui accepte de l'argent volé, notamment des Algériens, ou des Marocains, ou peu importe, n'importe quel pays, et toute l'Afrique francophone. Je veux dire, à ce moment-là, ils auraient adopté des démarches anti-recel générales. Et la loi existe. Or, ils ne l'appliquent pas. Maintenant, si on prend l'Angleterre qui remet en cause, surtout l'Angleterre, qui est à la base même de l'habeas corpus, l'habeas corpus, etc., et cette espèce de modus vivendi sur le fait que le droit de propriété, on ne touche pas, de quel droit ils ont remis en cause la possession des Russes ou même d'oligarques? Il a un titre de propriété, de quel droit? Mais à partir du moment où vous le remettez en cause, et le citoyen lambda, en Argentine et n'importe où, se dit, mais moi, je peux même plus voler, honnêtement. Où je vais mettre mon argent? Absolument. On passe celui qui est très honnête et qui a toute sa vie travaillé et qui a mis un peu de départ. Mais pourquoi va-t-il croire dans ces pays?
D'accord.
Bah... Oui, ils ont créé une situation de perte de confiance.
Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission sur les ondes de Radio Maliba FM à Bamako. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Abdelrahman Hadj Nasser, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien conseiller économique de feu le président Chedli Benjdid.
Depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, l'Organisation du commerce international, donc centrée sur la devise américaine, comme vous l'avez noté durant la première partie, à juste titre, la logistique de production et de transport des biens commerciaux, le réseau bancaire mondial, de messagerie SWIFT, duquel des pays comme la Russie et l'Iran ont été exclus. Donc le tout se fragmente en plusieurs autres circuits pour la commercialisation des produits énergétiques comme le pétrole, le gaz, à l'industrie aussi, européenne en particulier. Alors, les BRICS et d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Algérie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est semblent opter pour d'autres monnaies de paiement comme le rouble et autres devises nationales, ainsi que l'idée de la création d'une monnaie commune. Alors, ma première question, c'est que après la Chine, la Turquie et la Russie, l'Iran a déclaré la semaine dernière que ses exportations vers l'Afrique avaient doublé en un an. À cet égard, donc, Téhéran propose aux pays africains de créer une banque commune pour promouvoir le commerce en monnaie locale. Alors, à votre avis, cette proposition est-elle réaliste? Et étant donné l'écart des économies de la majorité des pays africains, notamment ceux de la zone du franc CFA?
Bon, moi, je ne conçois pas le monde comme étant le remplacement d'un pilleur par un autre pilleur. Mmh. Ça, ce n'est pas possible. Mais l'économie, elle est ce qu'elle est. Les finances aussi, et puis la nature de l'être humain. L'être humain est, malheureusement, c'est de l'économie. Éthologie, hein, c'est-à-dire qu'on essaie toujours d'agrandir son territoire au détriment des autres. Et le monde entier conçoit l'Afrique comme étant peuplé par des gens incapables de se gérer. Et donc, très très riches, très 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 riches, et donc aptes à être pillés. On est véritablement dans ce que Malik Bennabé a appelé la colonisabilité, et puis on est aussi dans le noir et masque blanc de notre ami, de notre Algérien, Guadeloupéen Algérien, Frantz Fanon. Ce n'est pas franchement positif pour l'avenir, tout ça. Ce n'est pas positif. Il n'y a pas de place pour de multiples visions bancaires, comme ça. Je veux dire, l'avantage de la période anglo-saxonne, c'est qu'elle a duré 4 siècles, et ils avaient les anglo-saxons, les anglais particulièrement, et la City, donc la City a dirigé le monde pendant près de 4 siècles, elle avait une vision. La City, les Rothschild avaient une vision du monde qui était très très cohérente. Et ils avaient une capacité de se projeter dans l'avenir qui est très très forte. Aujourd'hui, on voit des réactions, on ne voit pas une capacité de projection. Ce sont des choses différentes. Par réaction, on dit, ah oui, je vais faire une banque. Ah oui, je vais créer un fonds. Je veux dire, c'est ridicule, quoi. On copie pas des méthodes anciennes, périmées. Ceci d'une part, qu'il s'agisse de l'Iran ou de l'Algérie qui vient mettre en place un fonds. Je veux dire, en plus, et encore faut-il qu'il y ait des choses à vendre, hein. On vend quoi? Si c'est pour vendre des biens industriels américains ou occidentaux déguisés ou des biens chinois déguisés, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Donc vous voyez, il n'y a pas eu de réflexion. Il n'y a pas eu de réflexion là-dessus. Par ailleurs, la monnaie est un instrument de souveraineté. On ne crée pas une monnaie si on n'a pas une vision économique. Tous les pays ont une monnaie, mais est-ce que ce sont des monnaies? Des monnaies de souveraineté. Non, ce sont des unités de compte. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est tellement des unités de compte que elles subissent un ajustement. Elles ne font pas partie de l'ajustement monétaire international. Elles ne font pas partie de l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Donc, vous prenez des monnaies qui ont l'air puissantes, que sont les monnaies, par exemple, des pays du Golfe, mais c'est la valeur du pétrole, ce n'est pas la valeur de la monnaie. La monnaie, c'est la valeur d'un pays, ce n'est pas la même chose. Ce que vaut un pays et ce que vaut sa rente pour le moment. Bien sûr, il y a beaucoup plus grave que les pays du Golfe, que sont certains pays africains. Et nous prenons le cas du franc CFA. Le franc CFA, c'est incroyable, je veux dire. C'est le minimum que de frapper monnaie quand on est un pays indépendant. On a interdit à ces pays de frapper monnaie et on leur a même enlevé leurs réserves. Mmh. C'est tellement grave qu'un pays comme le Mali, connu depuis l'Antiquité, par exemple, si on prend l'Algérie, je veux dire, toute l'occupation du Sahel a été faite par les Algériens, on les appelle Algériens aujourd'hui, mais à l'époque, on va dire, par la Confédération des tribus Zénètes, juste pour monopoliser la route de l'or du Mali, le Soudan. À l'époque, on appelait ça le Soudan ou l'Empire du Mali. Or, au Mali, vous n'avez pas de réserve d'or. C'était quand même un des pays producteurs d'or.
Il l'est toujours.
Le Mali.
Oui.
Le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana.
Le Tchad.
Les Ashanti, enfin, je veux dire, qui à l'époque, avaient des monnaies en or, qui aujourd'hui ont une monnaie de singe, qui s'appelle franc CFA.
Absolument.
Alors évidemment, la réponse facile, c'est de dire c'est de la faute à la France. Oui, bien sûr, la France a organisé un pillage, comme les États-Unis sont en train d'organiser un pillage, notamment le pillage de l'Allemagne, c'est-à-dire que même des pays très puissants peuvent être pillés. C'est vrai, ils organisent toutes sortes de pillages, des matières premières, mais aussi des hommes. On paye la richesse. La France prend les meilleurs médecins, les meilleurs informaticiens. Tout le monde sait qu'en Algérie, nous avons donné 16 000 médecins à la France. C'est incroyable. Avant, ils envoyaient des coopérants techniques qu'on payait très cher. Maintenant, nous payons pour leur donner des coopérants techniques qui ne nous rapportent rien et qui nous coûtent beaucoup. Donc, effectivement, l'impérialisme fait son travail et le sous-impérialisme fait son travail. La question essentielle, est-ce que nous faisons notre travail? Le problème, c'est pas de dire « j'enlève le franc CFA », le problème est encore une fois… Qu'est-ce que j'ai comme projet de gouvernance? Qu'ai-je comme projet économique? Qu'ai-je comme projet industriel, etc. Et en fonction de ça, quelle est la monnaie qui me permettra demain d'asseoir cette souveraineté? Donc c'est une réflexion sur la notion de souveraineté et de gouvernance. Alors, c'est un problème qui est très difficile à résoudre parce que nous avons, pour faire cette révolution dans nos pays, nous avons deux points d'appui. Il faut juste se rappeler qu'il n'y aurait jamais eu de révolution française sans le point d'appui anglais, parce que les Anglais avaient besoin du développement d'une bourgeoisie en France pour accroître leur capacité à s'étendre dans le continent. Nous, on pense que les Anglais et les Français ne s'aiment pas. C'est vrai, mais l'argent, lui, ils s'aiment très très bien. Et donc ils savent très bien comment semer sa logique à lui, à travers le continent.
D'ailleurs, actuellement, les plus grandes fortunes françaises, que ce soit dans le domaine bancaire ou industriel, sont cotées à la City. Elles ont des...
Évidemment. Mais toutes les révolutions, la révolution russe, mais sans l'Allemagne, elle n'aurait pas eu lieu. Donc on a toujours besoin d'un point d'appui à l'étranger pour permettre à l'effet de levier et de s'effectuer. Le problème pour nous de cette nouvelle gouvernance, c'est est-ce que les BRICS vont servir de point d'appui, disons, pour simplifier, est-ce que dans cette étape, la Russie et ou la Chine vont servir de point d'appui pour changer le mode de gouvernance dans nos pays? Comme le mode de gouvernance en Europe a changé petit à petit grâce à l'Angleterre puis à l'Allemagne, les BRICS vont-ils être un ratage parce que tout simplement, ça va être une nouvelle forme de pillage sous d'autres noms. Oui, c'est une question essentielle sur l'intérêt des BRICS. Nous avons affaire aujourd'hui dans les BRICS à des cultures très différentes à des cultures non seulement historiques, mais aussi à des cultures économico-financières très différentes. Nous savons que l'ex-URSS l'a montré, mais aussi la Russie, qu'il y a une capacité de gestion patrimoniale multiculturelle chez les Russes. Il peut y avoir des guerres contre les musulmans, ou contre ceci, ou contre cela, mais tout compte fait, c'est pas très raciste tout ça, c'est des guerres de territoire et de gestion de territoire, beaucoup plus que des guerres culturelles. Il y a une coexistence qui est très très forte, ce qui signifie que le mépris n'est pas énorme, il y a des équilibres. En Chine, nous avons affaire à une autre culture, qui est une culture de la domination par l'argent et par le commerce, mais de domination. Pas de partage. Il n'y a pas de partage. Vous voyez, quand vous reprenez l'ancienne URSS, vous voyez que dans le fond, l'industrie a été partagée, que les écoles ont été partagées. Même si le partage n'est pas toujours égal, mais il y a eu partage. Ce n'est pas le cas de la Chine. Il n'y a pas partage, il y a domination. C'est pas la même chose.
Et dans le cadre de ce projet de la route de la soie, les routes nouvelles, les routes de la soie, est-ce que ce n'est pas un partage ça?
Non, pas du tout. C'est un projet de domination commerciale, c'est-à-dire je produis, je vends. Et sur la route, je construis des infrastructures qui me servent à vous endetter, parce que c'est moi qui les construis, mais je vous le mets comme sous forme de dette. En contrepartie de quoi, pour pouvoir me faire rembourser mon propre investissement, je vais prendre des matières premières que je vais ramener chez moi, que je vais transformer, que je vais vous vendre. Je veux dire, c'est un projet impérial, banal, quoi. Je veux dire, c'est un projet impérial, ce n'est pas un projet de transformation des rapports économiques internationaux. Donc, si les BRICS ne servent pas à dire non, nous avons besoin de pays plus équilibrés, ça ne servira pas à grand-chose. Vous voyez, donc, sur ce plan-là, cette réflexion n'a jamais été élaborée, ni en Chine, ni en Russie. La Russie l'a élaborée dans le cadre de sa révolution à l'intérieur de l'ex-URSS. Elle ne l'a pas élaborée à l'extérieur. Donc ça, c'est un effort à faire. Il y a un grand économiste, Glacière, etc., qui a des compétences de réfléchir à des choses comme ça. Mais nous aussi, nous devons réfléchir. Parce que, vous voyez, par exemple, l'Union africaine existe, ils ont créé une zone de libre-échange, etc. Mais la zone de libre-échange, c'est la croyance dans la magie. Comme si le libre-échange permettait le développement. Mais le libre-échange, c'est une invention anglaise pour permettre justement d'exporter des produits et transformer, d'importer des matières premières. Ça n'existe pas, le libre-échange. Même la théorie d'Adam Smith, qui est la main invisible. Pourquoi on parle de la main invisible? C'est parce qu'on n'a pas d'explication sur notre fonctionnement ou justement parce qu'on veut cacher le fait qu'il y a un régulateur. Chez les Anglais, le régulateur derrière la bourse, c'est la City. La City, pour simplifier, c'est Rothschild. Je simplifie, bien sûr. Donc nous devons, en tant que pays qui voulons accéder à d'autres formes d'organisation, enrichir, par exemple, moi je ne vois pas pourquoi on n'adopterait pas une loi internationale, une loi en tous les cas africaine contraignante, c'est que je ne peux pas exporter de matières premières, ou alors je ne peux exporter que la moitié, et l'autre moitié doit être transformée sur place, avec des règles simples, par exemple le partage de la valeur, le partage de la valeur. C'est-à-dire, je veux qu'à chaque fois que soit créée une unité monétaire de valeur en Chine, je crée la même unité de valeur.
Justement, je voulais vous poser une question sur ça. Il y a un économiste russe qui s'appelle Andrei Gudryavtsev. Il est expert de l'Afrique subsaharienne et il estime que la création de la banque que propose l'Iran peut augmenter de manière significative le volume des échanges entre l'Iran et les pays du continent à long terme. Mais moi, je voudrais encore pousser un peu, on peut écouter une partie de son intervention, mais je voudrais quand même pousser un peu la réflexion un peu loin dans la lignée de ce que vous voulez dire. En août, les BRICS vont discuter de la création d'une monnaie commune. et lors de leur prochain, c'était lors de leur prochain sommet en Afrique du Sud. Alors, à partir de ce que vous venez de dire, si l'on tire les enseignements du fonctionnement actuel de la zone euro, à cause des problèmes donc de disparité des structures économiques des pays du Sud, comme la Grèce, l'Espagne et l'Italie, par rapport à celle du Nord, l'Allemagne et les pays scandinaves, on peut penser que cette entreprise ne sera pas quand même de tout repos. Et qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, je pense qu'une monnaie commune est toujours la monnaie de celui qui est le plus fort dans cette communauté. Moi, je ne crois pas beaucoup.
Une monnaie unique, hein, une monnaie commune, c'est-à-dire les pays vont garder leur monnaie.
Et il y a eu déjà à l'époque de l'Union européenne, il y a eu l'expérience du serpent monétaire européen qui était un peu plus intéressant parce qu'il permettait à l'intérieur d'un certain cadre l'ajustement des monnaies entre elles, mais sans trop d'écart. Et c'était beaucoup plus stimulant que la monnaie unique. Mais encore une fois, la monnaie est un instrument de souveraineté. Ce n'est pas une unité de compte seulement. Donc la question de cette réflexion est liée à ce que j'essayais de dire tout à l'heure, à la question de quelle est la géographie de la valeur. Comprenez, le problème, c'est pas grâce à une banque iranienne de multiplier le niveau des échanges. Quel est l'intérêt de multiplier le niveau des échanges si je vends deux fois plus de minerais? C'est pas l'intérêt. Ça va enrichir toujours les mêmes voleurs. Par contre, si je transforme le minerai chez moi et que je le transforme avec beaucoup de valeur ajoutée et qu'en échange, je puisse obtenir de l'Iran ce que je ne sais pas produire moi, c'est intéressant. Parce qu'on échange de la valeur. Si j'échange des matières premières contre des matières transformées, je n'échange pas de la valeur. Je participe à mon pillage. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si les BRICS doivent signifier un changement de paradigme, je n'aime pas ce type de mot, mais un changement de mode organisationnel mondial par rapport au système anglo-saxon, c'est bien à ça qu'il faut réfléchir. C'est que dorénavant, il faut s'interdire des échanges de produits de base contre produits transformés. Ce n'est pas possible, ça. Ça ne doit pas pouvoir continuer. Si les Iraniens veulent échanger en Afrique, ben, ils doivent venir industrialiser et transformer en Afrique.
Monsieur Hajnassar, pour vous, l'ASLECAF, c'est-à-dire la zone de libre-échange africain, continentale africaine, dans sa version actuelle, telle qu'elle est faite actuellement, ne va pas vraiment contribuer au développement des pays africains comme elle est calquée
Pour moi, c'est une réflexion magique. Comprenez, on a des formules creuses comme ça et on pense qu'elles vont avoir des effets positifs juste parce qu'on les a énoncés. C'est pas parce que je fais du libre-échange que le développement va se fixer. Ce n'est pas vrai. Pour que le développement se fixe, il faut régler le problème de la corruption. Vous savez, parce que la corruption mène à la soumission et la soumission mène à la trahison. Dès qu'il y a corruption, vous êtes traître à votre pays. Vous savez, ça, c'est pas la peine, je veux dire, d'essayer de trouver des formules et dire, mais non, ce n'est qu'un échange. Pas du tout. Vous êtes corrompu, vous êtes un traître à votre pays. Donc, vous n'allez pas permettre à votre pays de se développer. Ce n'est pas jouable, ça. Donc, il faut régler les problèmes de gouvernance clés. C'est pour ça que nous devons être aidés dans les pays, par les pays BRICS, notamment par la Chine, justement en s'interdisant la corruption, en s'interdisant ces pratiques commerciales. Aujourd'hui, si vous n'arrivez plus, par exemple, à commercer avec l'Europe à cause justement de certains critères, notamment qui interdisent de détourner plus de X%, vous allez en Chine. Il n'y a pas de critères. Sous couvert que en Chine, on ne fait pas de politique. Mais ce n'est pas vrai. En Chine, je suis désolé, je ne veux pas attaquer la Chine. Question n'est pas là.
On est en train de réfléchir juste.
Vous prenez. Si moi je peux obtenir des commissions de 30% en Chine et que par ailleurs je peux ouvrir dans les zones économiques spéciales des comptes offshore, mais la situation est encore pire que la situation actuelle avec l'Occident. Parce que nous sommes dans un contexte où il n'y a pas du tout de droit. On est dans l'arbitraire absolu. C'est pas jouable.
D'accord.
Donc il faut pas que les BRICS tombent dans ce panneau. Et pour le moment, je n'ai pas vu de réflexion. Je ne vois qu'une réflexion alternative à l'impérium ou à l'impérialisme américain.
C'est le travail que fait actuellement le conseiller justement que vous avez cité de Monsieur Poutine, Sergueï Glazyev, qui lui table sur la question d'abord de développer sur le plan physique et de créer les richesses, d'industrialiser, de créer les richesses à échanger. Et lui, il pense que la question de la monnaie viendra comme une dernière étape pour faciliter les échanges.
Vous savez, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Voilà.
Et c'est d'ailleurs, honnêtement, moi je n'ai pas lu grand-chose de lui, hein, mais les deux articles que j'ai lus de lui en français, franchement, c'est la première fois que j'ai eu de la respiration intellectuelle, parce que j'ai trouvé qu'il y avait de la réflexion économique. Mmh. J'ai vu des articles chinois de très haut niveau, mais ce ne sont pas des réflexions alternatives, ce sont des réflexions de pousse-toi que je m'y mette, c'est-à-dire je veux prendre ta place, l'Occident. Il n'y a pas du tout cette réflexion sur le changement de la modalité de fonctionnement. Parce que les libertés fondamentales, les biens communs de l'humanité, c'est quoi ? C'est les ressources naturelles, bien sûr, mais aussi c'est les ressources humaines, l'eau. Donc ces biens doivent pouvoir circuler. Pourquoi ? Parce que la population va là où il y a de l'eau, ou l'eau doit aller là où il doit y avoir de la population. D'accord ? Et les ressources, idem. Pour qu'elles puissent circuler convenablement, il faut qu'on puisse les valoriser. Si on n'arrive pas à les valoriser convenablement, la circulation ne se fait pas dans tous les sens. Et donc, on a une fixation. Par exemple, la Chine n'a pas réfléchi comme le Japon l'a fait. Le Japon, à l'époque, avait dit... Moi, je ne peux pas devenir un pays d'émigration. Donc, je préfère sortir mes industries. Et le Japon a opté pour l'industrialisation de son hinterland. Donc, tout ce qu'on a vu comme développement de la Corée du Sud, qui était un ancien pays ennemi quand même, hein, de la Thaïlande, enfin d'un certain nombre de pays, ce sont les Japonais qui ont décidé d'aller vers les ouvriers plutôt que de ramener les ouvriers chez eux, à la différence du calcul qui a été fait par les Européens. Et on voit que malgré toute l'expérience, on va dire, négative de l'immigration, bah les Allemands ont continué à attirer des gens après la guerre, après, on va dire, les printemps arabes, puisqu'ils ont ramené des millions de Syriens chez eux au lieu d'aller en Syrie et de contribuer à la stabilisation de la Syrie. Donc, cette réflexion n'existe pas en Chine, parce que la Chine est un pays qui a progressé tellement vite qu'ils n'ont réfléchi jusqu'à aujourd'hui qu'à la croissance interne et au noircissement de la matrice industrielle chez eux. Sur ce plan-là, ils ont été incroyablement efficaces. Il y a une matrice interindustrielle qui a été bien noircie, c'est-à-dire qu'ils remplissent toutes les fonctions de la matrice. Ils ont une politique de puissance technologique extraordinaire, une politique de puissance financière. Mais ils n'ont pas réfléchi à la fluidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières. Et pourtant, les Chinois devraient être en avance là-dessus, parce que la muraille de Chine, en fait, il y a plusieurs murailles de Chine hein, dans le passé, et il n'y en a pas une. Est-ce qu'elles ont empêché les hordes, entre guillemets, de venir et d'occuper Pékin ? Mais jamais. Or, ils n'ont pas réfléchi à ça. Mais... on va être 2 milliards d'Africains. Qui va retenir cette population si on ne crée pas de la valeur sur place ?
Absolument. Personne.
Aujourd'hui, elle va en Europe, mais demain, elle ira en Chine. C'est une évidence.
Une dernière question, monsieur. C'est vraiment passionnant de faire tout cet entretien avec vous. Une dernière question quand même que j'aimerais bien que vous expliquiez à nos auditeurs. Cette histoire-là de dédollarisation. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de sérieux, de qui peut se réaliser à court terme, ou le dollar il est encore là pour une bonne partie des années à venir, et en particulier cette question pour l'Afrique qui n'a pas de monnaie, donc comme vous l'avez dit à juste titre, les pays n'ont pas de monnaie souveraine, vraiment, et de développement, et donc in fine, ils sont dépendants du dollar et de l'euro. Donc, est-ce que cette histoire-là, vous voyez que quelque chose...
Écoutez, vu l'endettement américain qui est plus que colossal, de 100 000 milliards de dollars, Une dédollarisation brutale signifierait une catastrophe absolue de l'humanité. Hein.
Oui, à l'échelle internationale.
Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, si vous valorisez l'Américain tel qu'il devrait l'être aujourd'hui, selon sa production réelle et selon son poids dans le monde, il faudrait diviser le pouvoir d'achat par 6, si ce n'est par 10. Aucun être humain n'accepte une telle perte de pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va faire la guerre. Or, aujourd'hui, il ne peut plus gagner de guerre. Déjà, il n'en a jamais gagné. Donc la seule guerre qui lui reste, c'est le champignon atomique. Donc attention, la dédollarisation doit prendre beaucoup de temps. De toute façon, elle est là, la dédollarisation, puisqu'il n'y a plus le monopole. Dès le moment où vous n'avez plus le monopole, ben vous n'êtes plus dans une économie mondiale dollarisée. Donc, elle est de fait, la dédollarisation a commencé. De fait. La question, la responsabilité russe, elle est énorme aujourd'hui, parce que d'une certaine façon, ils ont déjà gagné parce que le rouble a pris de la valeur, parce que l'énergie a pris de la valeur, parce que Gaziev et compagnie ont très bien réfléchi, la Banque centrale a bien géré, etc. Je dirais que dans leur responsabilité mondiale, les Russes par rapport à la Chine, pour qu'elles ne deviennent pas trop fortes par rapport au reste du monde, il faut trouver un équilibre qui ne soit pas l'effondrement de l'Occident. Parce que l'effondrement, encore une fois, c'est une catastrophe. Vous savez, un animal blessé, il est prêt à tout. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas conscience de leur niveau de faiblesse. Donc, dans ce cas de figure, c'est au fort d'aider le faible à prendre conscience, tout en n'allant pas jusqu'au bout de la prise de conscience de sa faiblesse, tout en gardant l'illusion qu'il fera partie des grands. Donc il faut dédollariser, mais par étapes. C'est un enjeu pour les échanges de matières premières, parce que la puissance américaine reposait sur la capacité de nuire militairement, mais sur le contrôle des mers héritées de la philosophie anglaise et le contrôle des matières premières. Les deux allant de pair, si je contrôle les mers, donc je contrôle toutes les matières premières, parce que tout le monde doit me payer le prix de la libre circulation des matières premières, notamment le pétrole, parce que c'est l'économie, ce n'est que d'énergie. Il ne faut jamais oublier que l'économie, c'est de l'énergie.
De l'énergie transformée.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ne contrôlent plus. D'abord, l'idée chinoise de la route de la soie, c'est qu'on ne passe plus par la mer. L'idée russe, l'idée chinoise est une idée horizontale. L'idée russe de route verticale, idem, c'est qu'on va, on va contourner l'étranglement par la mer, notamment tous les tubes. L'idée américaine de détruire le Nord Stream, évidemment, c'est ça là, c'est que je veux garder le contrôle. Vous ne pouvez pas passer outre. Mais c'est une idée du passé. Parce qu'un tuyau, ça se remplace vite aujourd'hui. Ce ne sont pas des technologies de pointe. Oui. Donc, aujourd'hui, la dédollarisation est un fait accompli. Elle n'est pas totale. Elle se fait petit à petit. On voit bien que, par exemple, la Russie aurait pu exiger immédiatement qu'on la paye en or, qu'on la paye en russe convertible. Ça signifie quoi qu'on paye en russe convertible ? Ça signifie que n'importe qui achèterait en Russie, même indirectement, passons par l'Inde pour le pétrole, est obligé d'aller emprunter à la banque centrale russe, donc d'accepter de payer des intérêts aux Russes, parce que quand vous empruntez, il y a des intérêts, pour pouvoir acheter du russe et de continuer à emprunter pour pouvoir rembourser la dette en russe. Donc vous allez, on rentre dans le système qu'ont créé les anglo-saxons. Les Russes ne l'ont pas fait par sagesse. Ils ont commencé à dire « on exige, on va en rouble », puis ils ont inventé des solutions intermédiaires pour sauver la face de tout le monde. Et puis parce que, est-ce que c'est intéressant pour les Russes d'être valorisés à leur valeur réelle ? Non. Tant qu'ils sont sous-valorisés et qu'ils peuvent jouer un peu avec le taux d'intérêt, ils ont encore beaucoup de marge devant eux. Les Chinois ont moins de marge, parce qu'ils sont valorisés déjà à leur valeur réelle. Ce n'est pas le cas des Russes, qui ont beaucoup plus de marge encore. Et puis les Russes ont besoin aussi de profiter de la période, non pas pour moderniser seulement leur industrie militaire qui est déjà assez bien avancé quand même. Hein. Mm-hmm. Mais aussi de noircir un peu plus leur matrice dans les domaines où il y a quelques faiblesses. Normal. Bon. Donc, oui, c'est une période qui est une période intéressante sur le plan de la restructuration industrielle mondiale. Et donc, la dédollarisation doit être la plus soft possible pour amener un nouvel équilibre mondial à une négociation, non pas dans le cadre de l'OMC ni de l'ONU, parce qu'à mon avis, tout ça est obsolète. Donc, ce sont des instruments, à commencer par l'ONU, par la Banque mondiale, etc., qui ont été mis en place, on va dire, pour donner une existence internationale à la domination.
C'était Abdelrahman Hajj Nasser, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien conseiller économique de feu, le président Chedd Ibn Jdid. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique, partenaire de Radio Maliba FM à Bamako. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.